Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix est libre, l'émission de l'association Picassoft. Pour rappel, Picassoft est une association qui s'est donnée pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée et de sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux du numérique et à une approche libre, éthique, inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on vous propose une seconde émission sur le thème des communs numériques et des communs en général. Pour cela, on vous invite d'abord, si vous n'avez pas déjà écouté, à aller écouter la première émission sur ce sujet avec Lionel Morel, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de l'émission radio.picassoft.net ou sur graphite.net. Dans cette émission, on avait présenté les concepts de commun, de gouvernance, de communauté et de contribution en insistant sur certains enjeux politiques, économiques et sociaux liés à l'essor des communs numériques. On poursuit aujourd'hui sur le sujet des communs avec un autre angle d'attaque, puisque nous allons parler des communs culturels et des communs dans l'économie sociale et solidaire. Et nous avons le plaisir de faire cela avec une spécialiste du sujet, Laura Aufrère. Bonjour Laura.
Bonjour.
Et je suis accompagné aussi d'Audrey. Bonjour Audrey.
Salut Rémi.
Et Audrey, je te laisse la main.
Alors Laura, tu es actuellement doctorante au Centre d'économie de Paris Nord à Paris 13 en sciences de gestion. Tu prépares une thèse qui est intitulée « Communs culturels et nouveaux modèles organisationnels et managériaux ». Mais avant cela, tu as eu un parcours professionnel consacré donc, au secteur culturel déjà après des études à Sciences Po Bordeaux. Et tu as travaillé notamment comme coordinatrice à l'UFISC. L'UFISC, c'est l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. C'est une fédération qui représente plus de 2000 structures qui développent des projets artistiques, culturels d'une très grande diversité, qui accompagnent les professionnels, les intermittents du spectacle dans leurs initiatives de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles organisationnels. Et tu mènes désormais un projet de recherche donc, sur ces questions des communs et de l'économie sociale et solidaire. Et tu es engagé également dans ces domaines-là. En tant que membre du RIPES Europe, le RIPES, c'est le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire, et tu es aussi membre de la Coop des communs, une association qui vise justement à rapprocher les domaines des communs et de l'économie sociale et solidaire, et qui réunit donc, des chercheurs, des militants, des entrepreneurs, des acteurs publics, donc beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pourquoi est-ce que, au départ, tu t'es attaché à l'étude des modes de gestion dans le secteur culturel en particulier, notamment dans le domaine du spectacle vivant? Pourquoi cette orientation-là?
Je pense qu'il y a une partie de hasard, d'une certaine manière, parce que j'ai été formée comme nombre de mes pairs à l'école, à la gestion de projet. Et puis, en m'investissant en tant que salariée à l'UFISC, j'ai eu aussi l'opportunité de mieux comprendre les enjeux que recouvrait l'économie sociale et solidaire et les différents mouvements, la dimension politique finalement des appareils de gestion et des enjeux organisationnels finalement qui sont relativement, alors pas peu discutés parce qu'ils le sont, mais qui le sont discutés de manière parfois très institutionnelle ou sur une logique de marché au sens de l'économie formelle. Et l'UFISC, c'était vraiment l'espace dans lequel j'ai pu peut-être mieux saisir au contact de ces très nombreux projets et avec auprès des gens qui s'y investissent, hein, les 15 fédérations qui s'y investissent, les enjeux d'émancipation et de questionnement sur ce que permet une réflexivité sur les modèles d'organisation. Et en particulier, ce qui était extrêmement intéressant, c'était de penser l'économie en dehors du cadre lucratif et de penser les logiques de coopération, les logiques de réciprocité. Donc, c'était un peu par là que j'étais introduite à l'économie substantive, c'est-à-dire d'être au contact de gens qui montent ces projets de manière professionnelle et qui n'ont pas vocation ni à se penser sur un marché, ni à penser la relation aux autres, donc à leur public et aux autres structures, mais aussi aux institutions, de manière concurrentielle. Donc, à la fois la remise en cause de la lucrativité et de la concurrence, ça permettait une entrée assez précieuse. Puis après, il y avait la dimension de gouvernance qui était cet entrepreneuriat, finalement, si on peut le dire comme ça, cet entrepreneuriat collectif, finalement, qui visait à monter des projets et qui, du coup, avait besoin qu'on discute des façons de faire ensemble et des façons de faire coopératives au sens très large du terme, très inspirées et très ancrées dans l'associationnisme.
D'accord. Donc en effet, tu étudies beaucoup les pratiques dans ce secteur-là, et puis tu en étudies donc une diversité, c'est-à-dire que tu t'attaches à ce que en fait, tu n'étudies pas un seul modèle organisationnel, mais bien une diversité de modèles et de pratiques culturelles. Alors pour toi, pourquoi est-ce que cette diversité-là de pratiques observées dans le secteur culturel te semble vitale justement à la construction d'un modèle de société, d'un modèle économique qui soit plus démocratique?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs enjeux qui sont un peu difficiles à résumer encore pour moi, parce que finalement, je suis encore dans l'écriture de ma thèse, hein, mais l'apprentissage à cet endroit-là, il est extrêmement précieux. Bon, d'abord, je pense qu'il faut souligner l'intérêt qu'il y a à construire ces espaces collectifs que sont l'UFISC, mais il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tous les citer là, mais d'abord les 15 fédérations qui composent cet espace. Ce sont des espaces d'apprentissage collectif qui sont à la fois des espaces dans lesquels on partage une expérience et donc des espaces dans lesquels on prend le temps d'analyser les pratiques que les gens développent collectivement dans leur structure. Ça a donné, le fait de monter ces espaces-là, ça a donné une légitimité à ces échanges qui devenaient des échanges consolidés en matière de connaissances, c'est-à-dire qu'on les transferts de savoir-faire, mais aussi les longues conversations qu'on a pu avoir dans le spectacle vivant, par exemple, et avec les arts visuels, ça a donné une perspective sur qu'est-ce que permet et qu'est-ce que, comment dire ça, qu'est-ce que permet les échanges entre pairs, mais qu'est-ce que permettent les échanges entre pairs du point de vue de la réflexivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend parfois mieux ce qu'on fait en l'échangeant avec d'autres qui font un peu différemment et dans les écarts, on découvre finalement ce qu'on a comme héritage de sa propre structure, c'est-à-dire qui fait la structure, c'est aussi des personnes qui viennent avec leurs propres connaissances, leurs propres sensibilités, notamment artistiques, mais pas que, et puis tout un tas d'apprentissages qui ont été faits hors de la structure culturelle donnée et qui se font dans tous les autres engagements associatifs. Donc, ce qui était intéressant, c'était que, du coup, ces espaces d'échange entre pairs, ils révélaient finalement une culture associationniste plus large que celle des métiers qui étaient représentés. Et donc, discuter de la démocratisation de l'économie, ça devient dans ces espaces-là plutôt discuter depuis son métier et à la frontière de son métier. Donc, ça permet de penser le développement d'une activité économique en la frant, en la confrontant à des enjeux citoyens. Et donc là, il y a un véritable espace de discussion où la démocratisation de l'économie, c'est pas seulement se penser hors du marché et en logique de coopération, c'est aussi réintégrer dans la conversation sur qu'est-ce qu'un modèle organisationnel, qu'est-ce qu'un modèle économique, des considérations qui peuvent être des considérations environnementales, des considérations qui sont de l'ordre de qu'est-ce que c'est que mettre en œuvre des processus de délibération qui vont prendre en compte différentes parties prenantes, pas seulement les artistes et les techniciens, par exemple, mais aussi une diversité de public, comment est-ce qu'on fait émerger ou comment est-ce qu'on essaie de co-construire des politiques publiques qui pensent le territoire et qui pensent le territoire de manière, encore une fois, coopérative, donc en disant, mais au fond, de quoi on a besoin, mais aussi de quoi on a envie. Et qui prend part à cette conversation. Voilà, donc ça, c'était, je pense, extrêmement intéressant. Et donc, du coup, pour reboucler un peu sur cette question démocratique, ça permettait de concevoir la démocratisation de l'économie, pas seulement sur le mode de la démocratie formelle et du vote, mais bien sur la question, de se concentrer sur la question participative. Et l'UFISC s'est saisi, et je crois que c'est l'objet de l'économie solidaire, mais aussi des communs, de la question des droits culturels. Et la question des droits culturels, ça n'est pas seulement l'accès aux œuvres, donc ça n'est pas de penser seulement la circulation des œuvres une fois qu'elles sont terminées sur un territoire et la circulation auprès de différents publics, mais la participation d'un certain nombre de parties prenantes, des publics, à la délibération, à qu'est-ce qu'on a envie de faire dans un lieu, à comment est-ce qu'on organise les pratiques culturelles. Et donc les droits culturels, c'est c'est pointer le droit de tout un chacun à participer à la vie artistique et culturelle et pas seulement en tant que spectateur. Donc là, on voit bien que la question démocratique, elle s'enrichit bien au-delà de la question formelle.
D'accord, oui, parce que donc voilà, il y a une part d'expérimentation donc dans ces pratiques culturelles et puis de participation à l'expérimentation, mais de participation aussi, comme tu l'expliques, donc surtout aux délibérations, à la réflexivité de où va notre collectif, qu'est-ce que l'on veut faire, quels sont nos besoins, nos aspirations, etc. Et puis la participation, comme tu le dis, le droit culturel, c'est aussi si je comprends bien et que je ne déforme pas, c'est la participation aussi d'élaborer donc éventuellement ses propres lois et puis ses propres justement sa propre gouvernance dans ces communs-là. Est-ce que, alors, si je dis pas de bêtises pour l'instant,
absolument, absolument.
Alors après, donc ça c'est super intéressant ce que tu expliques. Quand on parle aussi de biens communs, alors là en l'occurrence dans les biens dans les communs culturels, alors ce que tu expliques, c'est qu'il y a une notion importante d'échange, justement, donc de questionnement, de dialogue entre chaque partie prenante à ces communs. Et en effet, au-delà de l'aspect, on peut dire, purement utilitariste de la contribution à un commun, où on peut dire qu'on contribue pour l'intérêt général, etc., ce que tu expliques, ce que j'ai pu lire à propos de ce que tu disais là-dessus, c'est que ce qui est plus important dans le commun que le bien, c'est plutôt le lien, c'est-à-dire justement ces échanges sociaux-là. Alors est-ce que, une question qu'on pourrait se poser, nous qui sommes avec Rémi plutôt axés sur le numérique, est-ce que pour toi cet aspect-là d'appartenance à une communauté et puis d'échange de chaleur humaine peut se retrouver tout de même dans la gestion de communs numériques? Est-ce que ces échanges-là, ces pratiques que tu étudies donc, dans les communs culturels peuvent aider peut-être à la gestion des communs numériques?
Oui, absolument. Je pense que, enfin, il me semble, en tout cas, d'après ce que moi j'ai eu l'opportunité d'observer, c'est que cette dimension participative pour aussi parfois complexe qu'elle puisse être, c'est-à-dire tout le monde, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les publics ne participent pas de la même manière. Bien sûr qu'il subsiste des distinctions entre une participation professionnelle de la part des artistes et des techniciens et puis une participation qui se fait sur le registre de l'amateur. Ce qui est intéressant, je pense, dans les communs culturels, dans les dynamiques finalement, parce que c'est ça que je regarde, c'est finalement de ne pas saisir ces initiatives comme des organisations figées, mais comme des processus de faire ensemble. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les conditions de la participation, c'est-à-dire que ce n'est pas un cadre participatif qui serait posé avec des rôles assignés, même si encore une fois, on peut distinguer des statuts différents, le statut professionnel, le statut amateur, mais on voit bien d'abord qu'il y a des porosités, puisque je pense à un lieu comme main d'œuvre parce que son actualité a été particulièrement brûlante. C'est un lieu qui a pensé depuis très très longtemps ses porosités en organisant énormément de pratiques amateurs et en même temps le passage de la pratique amateur vers la pratique professionnelle, c'est-à-dire des gens qui ont fait énormément de répétitions et puis qui à un moment décident de se professionnaliser. Donc déjà, penser la participation des publics de manière plus poreuse que d'une opposition complètement tranchée entre professionnels et amateurs, ça évite de penser ces deux positions-là en termes hiérarchiques. À partir de là, il me semble que ces apprentissages collectifs de faire ensemble, et puis le partage d'un lieu finalement, parce que c'est ça aussi qui fait les croisements, tous les moments informels qui permettent d'aller au-delà, encore une fois, de rôles complètement figé et assigné, ça permet un dialogue qui, il me semble, permet à tous de témoigner, de discuter, au fond, qu'est-ce que je viens chercher dans un lieu, moi en tant que public, moi en tant qu'artiste, moi en tant que technicien. Et on voit bien que il y a un plaisir à faire ensemble. Alors, il y a un grand chercheur à l'EHSS qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui a écrit plusieurs ouvrages absolument fondamentaux, dont un, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle La fin de l'exception humaine. Et dans ce livre, il explique très bien, alors je suis désolée par avance parce que je vais résumer sa pensée et très fort probablement mal la résumer, mais il rappelle que l'expérience esthétique n'est pas le propre des œuvres et qu'on peut prendre du plaisir, il y a un plaisir esthétique dans la vie de manière générale, sur tout un tas d'autres. C'est une conduite. L'expérience esthétique. Donc, c'est la façon dont on se présente au monde et dont on interagit. Et je trouve que finalement, il y a presque une. C'est presque aussi important le rapport que les artistes, les techniciens et les publics entretiennent aux œuvres que les rapports qu'ils entretiennent entre eux. Et ce plaisir qui est pris au faire ensemble. Rappelle, je crois, que la démocratie, au sens où on l'expérimente, c'est un besoin qui correspond à un besoin d'émancipation, mais c'est aussi, et si ce n'est plus, une aspiration. Et donc, ça évite, je crois, de rabattre ces initiatives sur une lecture un peu instrumentale. On aurait besoin de ces lieux pour faire mieux. On a envie de ces lieux pour faire ensemble. Et donc, ça paraît peut-être un pas de côté un peu caricatural dit comme ça, mais en même temps, c'est bien dans ce plaisir à faire ensemble, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'il y a un apprentissage. Et il me semble que du coup, dans les communs numériques, la configuration, bien sûr, est différente et le lieu est pensé de manière très différente également. Mais il me semble on retrouve cette notion de plaisir et d'aspiration à faire ensemble qui donne du sens. Et je crois que ce sens, du coup, n'interprétant pas ces initiatives, encore une fois, sous un angle exclusivement instrumental, hein, qui serait de remplir tous les objectifs démocratiques où tout le monde participerait selon le même format, c'est-à-dire la grande assemblée générale permanente, etc., mais plutôt en trouvant des espaces, des sujets, des thèmes, des objets où chacun participe depuis sa place. Là, il y a quelque chose qui est tout à fait, une réflexion qui est peut-être plus transversale au sens où elle n'est pas sectorielle, donc elle n'est pas propre au secteur culturel, mais c'est une culture de la participation, et cette culture de la participation, elle est plurielle et elle se partage dans les communs culturels, dans les communs numériques, mais aussi dans tout un tas d'autres dynamiques en commun qui sont partagées donc par d'autres secteurs, à n'en pas douter.
Merci beaucoup Laura pour cette très belle réponse. Écoute, et merci pour tous ces concepts et ce sens que tu donnes justement. Et personnellement, je me retrouve tout à fait dans ce que tu expliques par rapport au commun numérique. Je parle par rapport à Picassoft, du plaisir de faire ensemble justement, c'est ça, hein, ce côté émancipateur et le fait de vivre ensemble, mais le plaisir de faire ensemble compte vraiment. Et merci beaucoup pour cette réponse-là. Alors, je vous propose qu'on passe à un échange juste maintenant sur eh bien, les liens qu'on peut faire. Alors, on a déjà bien entamé le sujet, mais les liens qu'on peut faire entre les communs culturels et l'économie sociale et solidaire, et puis ensuite entre ces deux domaines-là et les communs numériques. Avant cela, donc, on va reposer juste quelques définitions, quelques concepts pour être bien sûr de quoi on parle. Rémi, je te donne la main.
Alors on va commencer par la définition des communs. Pour cela, on va reprendre la définition de Lionel Morel qui dépasse la définition classique, qui est donc une ressource gérée par une communauté avec des règles et une gouvernance établies par la communauté. Lionel Morel, lui, nous expliquait que cette définition centrée sur la ressource n'est sans doute pas à la hauteur de la réalité. Il parle donc d'une institution, d'un système de règles déterminé par une communauté pour régler la mise en partage d'une ressource grâce à la mise en place d'une gouvernance et de processus délibératifs pour garantir la pérennité de la ressource de façon démocratique. C'est un modèle de gestion, une forme d'organisation, un mouvement plus qu'une simple ressource. Une deuxième définition sera celle de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un ensemble de coopératives, mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales, dont les activités et le fonctionnement sont fondés sur les principes d'une solidarité et d'utilité sociale. Audrey, je te laisse enchaîner sur les communs culturels.
Oui, absolument. Alors, On avait une petite note pour dire, juste pour donner une idée avant ça de l'ampleur de l'économie sociale et solidaire. Il y a une note d'analyse de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire qui a été publiée en novembre 2019 et qui indique que l'ESS, hein, comme on l'appelle, représente quand même 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Donc une grande part quand même de l'économie. Et puis voilà, pour donner une petite idée. Alors en effet, hein, la troisième thème important pour nous aujourd'hui, c'est les communs culturels. Bon, alors Laura, tu nous as déjà bien défini, donc on va pas trop repasser dessus, mais en effet, si on a bien compris, c'est lorsque des communautés d'artistes s'organisent, donc bien sûr en commun, qui partagent des savoir-faire, des savoirs, qu'ils développent des expérimentations au sein de lieux de création. Ce qui est intéressant dans la définition que tu donnes, enfin ce qu'on a compris des communs culturels avec toi, c'est que ces communs culturels dépassent donc le schéma divisé entre production et puis démonstration ou consommation d'un contenu culturel, puisqu'ils se font dans des lieux intermédiaires et indépendants, et puis ils proposent donc de faire participer également le public, les amateurs, etc. Alors, il y a quelque chose d'important dans les communs culturels, ce sont les tiers-lieux. Alors, les tiers-lieux, on a piqué la définition sur le site de la coopérative des tiers-lieux, justement. Alors, je vais vous le lire. Les tiers-lieux, qui sont appelés aussi espaces de travail partagé et collaboratif, désignent des lieux de travail où la créativité peut naître entre différents acteurs, où la flexibilité répond aux difficultés économiques du champ entrepreneurial. Ils peuvent prendre la forme d'espaces de travail partagé, que l'on appelle aussi coworking, d'ateliers partagés, de fab lab, et puis ils accueillent des services hybrides tels que des salles de réunion, des jardins partagés, des boutiques partagées, des cafés, des épiceries, des ressourceries, des espaces de médiation culturelle et bien d'autres. Voilà, donc différentes formes de tiers-lieux. Laura, comment est-ce que, si je peux te poser une question, puisque tu as bien voulu rester avec nous sur toute l'émission, comment est-ce que ces tiers-lieux-là peuvent nous aider à comprendre le lien entre justement les pratiques qu'il y a dans les communs culturels et puis l'économie sociale et solidaire, et puis comment éventuellement, en deuxième question, comment on pourrait faire pour rendre ces tiers-lieux un petit peu plus visibles peut-être qu'ils ne le sont aujourd'hui?
Vaste question. Alors, moi, je suis pas spécialiste des tiers-lieux, donc je répondrai avec prudence. Il me semble que les tiers-lieux, ça correspond finalement peut-être plus à un mouvement qu'à une forme figée. Ou une forme donnée, disons, puisqu'on retrouve à la fois une diversité sectorielle, on a des espaces de coworking très pluridisciplinaires, et puis on a des tiers-lieux qui ont des ancrages sectoriels forts, ou en tout cas des lieux, par exemple, notamment des lieux culturels qui se revendiquent comme tiers-lieux. Il me semble qu'il faut être attentif à cette diversité, et je ne sais pas jusqu'où la notion même de tiers-lieu fait mouvement en tant que tel, ou s'il s'agit finalement d'expérimentations sur des territoires, qui sont donc des expérimentations situées, qui, de moments de coopération en moments de coopération, sur des points précis qui les réunissent, notamment le fait d'avoir des espaces partagés avec des travailleurs qui ont leur propre trajectoire professionnelle, ces éléments communs leur permettant de faire mouvement. Je crois qu'il faut être attentif à ce que le terme de tiers-lieu ne soit pas un grand fourre-tout qui ne permettrait pas à chacune de ces expérimentations de se situer dans un secteur ou dans des territoires donnés, en particulier parce que ça, je crains que ça n'enferme ceux qui portent ces initiatives dans un discours très général, qui ne permettra pas de mettre en valeur justement ce qui fait commun dans leur lieu. Et je crois que le fait de parler de coworking n'épuise pas la question de qu'est-ce qui se fait en commun et qu'est-ce qui ne se fait pas en commun. D'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de jugement à cet endroit-là, tout n'est pas fait en commun, je pense, dans les espaces de coworking, loin s'en faut. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est l'objet de pouvoir y développer sa propre pratique professionnelle. Donc, Et s'ajoute à ça, je crois aussi, le fait que cette notion de tiers, elle fait écho à la notion de tiers secteur, qui est une approche plutôt anglo-saxonne, finalement, de ces espaces et d'une certaine manière de cette économie qui serait entre l'économie publique et l'économie de marché. Or, l'économie sociale et solidaire, c'est beaucoup plus riche que ça, et ça n'est surtout pas un entre-deux. C'est un mouvement en tant que tel qui a sa propre histoire, une histoire longue, une histoire différenciée aussi, parce qu'il y a une très grande diversité de cultures en Amérique du Sud, notamment, où des mouvements populaires se sont développés depuis très longtemps et ont une histoire très, très riche de ces savoir-faire. Donc, je crois qu'il faut faire attention à la notion de tiers-lieu pour qu'elle ne soit pas, pour qu'elle ne recouvre pas sous la bannière de la coopération, des formes organisationnelles et des mouvements et des aspirations finalement assez diverses, même si je trouve ça très positif que enfin, évidemment, c'est toujours positif que les acteurs dialoguent, mais voilà, je pense que c'est pas une histoire finie et que la notion de tiers-lieu, elle est assez complexe. Donc, pour répondre à la question, parce que je viens de faire un grand détour et je m'en excuse.
On a compris un truc, c'est super.
mais voilà, disons que je ne sais pas si la question du tiers-lieu en tant que tel, elle résume la question des communs ou si la question des communs recouvre parfaitement la notion de tiers-lieu. Il me semble qu'il y a des tiers-lieux, en tout cas, qui ont vocation ou qui mettent en œuvre des formes organisationnelles qui se font en commun. Peut-être que ça n'est pas le cas de tous, je ne suis pas sûre que tous les espaces de coworking soient organisés en commun, donc peut-être que ce qui est important finalement dans le lien entre tiers-lieu et commun, c'est qu'est-ce qui se fait en commun, qu'est-ce qui se fait ensemble dans ces espaces et qu'est-ce qui relève de la dynamique des communs dans un certain nombre de tiers-lieux et en quoi est-ce que ça permet de qualifier les tiers-lieux, c'est-à-dire pas seulement de les rabattre sur cette notion de tiers d'entre-deux, mais qui leur donnerait une définition peut-être plus positive, moins en creux. Peut-être que c'est ça l'enjeu un peu fort, la contemporain, entre le mouvement des tiers-lieux et le mouvement des communs.
Ouais, d'accord. Il y a tout un enjeu aussi sémantique derrière même avec le mot. Donc, ok. Alors, peut-être que maintenant on peut juste s'attacher avant de passer au lien entre donc, les communs culturels, l'économie sociale et solidaire et les communs numériques. Avant de passer à ça, peut-être juste faire un petit point sur tout de même les aspects démocratiques et émancipateurs de ces mouvements-là. Alors, du point de vue de l'aspect émancipateur, ce que l'on peut dire ou redire, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses dans l'émission, eh bien, c'est que cet aspect-là tient dans le partage, la réappropriation de savoir et de savoir-faire par les membres de la communauté. Et donc, que ce soit l'apprentissage d'une pratique artistique, de compétences en jardinage ou en informatique, comme c'est le cas lorsque, par exemple, on contribue à faire évoluer l'infrastructure de Picassoft, par exemple, la contribution à un commun. Et les mouvements dont tu parles, Laura, c'est un acte émancipateur car eh bien, ça nous permet d'expérimenter, de dialoguer, de comprendre la construction, le fonctionnement de la ressource à laquelle on contribue et puis surtout ça nous permet de faire ça avec les autres. Donc on pourrait dire que l'aspect émancipateur tient justement dans ce gain en autonomie au sens où on comprend d'une part ce que l'on fait et puis d'autre part, on apprend à agir avec les autres et à échanger, à faire avec les autres. Et il y a également un aspect démocratique. Rémi, si tu souhaites nous en parler.
Ouais, bon, on en a déjà pas mal parlé, je crois, mais c'est pas grave, on radote. Il y en a un gros aspect démocratique puisque pour gérer ce commun, il faut que les membres de la communauté puissent prendre des décisions collectivement et définissent ensemble leurs propres règles de gestion, du coup, pour avoir un mode de gouvernance qui met la délibération en première ligne afin de mener à bien le projet. Du coup, c'est-à-dire que la délibération doit prendre en compte l'avis de tous les membres, ça passe avant toute logique marchande. Du coup, j'ai une petite question, Laura, je sais pas si je pense que tu n'as pas encore déjà répondu. Comment est-ce que s'organise, du coup, la rétribution des personnes qui participent à ces communs? C'est-à-dire qu'on voit que pour y participer, il faut s'impliquer. Est-ce que c'est du coup juste pour le plaisir? Ou est-ce qu'on peut imaginer des modèles économiques qui permettent de vraiment rétribuer les gens
Alors, c'est une question assez complexe qui appelle des réponses différentes en fonction des initiatives et de l'objet qu'elles se fixent. Par exemple, en tout cas, moi, dans mes travaux, la participation à la dimension en commun des lieux que je peux observer, elle n'est pas rétribuée. En tout cas, elle n'est pas rétribuée au sens d'une rétribution qui serait calquée sur le modèle du salariat ou de la prestation, c'est-à-dire sur la rémunération du travail, que ce soit sur un marché ou hors marché. Là, il y a la dimension de faire en commun, elle est centrée sur la fabrication d'un outil espace commun qui permet à chacun de développer sa propre pratique et de développer des pratiques collectives d'expérimentation. En particulier, je pense à des espaces, bon alors moi étant située dans le Grand Paris, tous ces lieux intermédiaires et indépendants qui finalement permettent d'expérimenter des formes plus spectaculaires, qui permettent aux plasticiens d'avoir de la place pour travailler, qui permettent aux artistes et techniciens du spectacle vivant d'avoir des espaces de répétition, des espaces d'essais-erreurs, etc. C'est pas forcément leur participation à ces lieux ou à ces communs, elle n'est pas forcément directement rétribuée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de modèle économique. Simplement, le modèle économique, il ne couple pas de manière automatique la question du travail, de la contribution et la question de la rémunération. C'est-à-dire que la rémunération, la trajectoire individuelle, professionnelle, elle peut se faire sur des projets développés par les individus ou sur des marchés qui sont hors du commun. Donc ce que ça pose comme question, il me semble, c'est comment est-ce que finalement ces dynamiques en commun, ces espaces en commun, ils s'articulent à des marchés ou alors des marchés plutôt privés, c'est-à-dire le marché de l'art, la vente de spectacles à des lieux ou à des espaces publics, hein. On a en France un réseau de diffusion publique très important et donc les spectacles sont vendus pour que les artistes et techniciens soient rémunérés. Mais ça veut dire que finalement les communs culturels peuvent développer des économies en étant non pas isolés de manière complètement hermétique du marché ou de l'économie publique, mais en rentrant en dialogue. Et finalement, ce que permettent, à mon avis, les communs culturels sous leur forme professionnelle, c'est de se créer des espaces de production qui ne sont pas fournis ni par le marché, ni vraiment par les politiques publiques. Et ces espaces d'expérimentation permettent de développer les pratiques professionnelles, individuelles et collectives. Donc, le travail, il est rémunéré à certains endroits de la filière et à d'autres, et ce sont plutôt des processus de socialisation qui vont permettre la rémunération du travail et puis des économies collectives, c'est-à-dire le fait d'avoir des cuisines collectives, de manger tous ensemble, d'avoir des lieux d'habitation partagés, etc., qui font que si on n'est pas directement rétribué de manière sonnante et trébuchante, au sur des économies domestiques de l'échange, donc on est hébergé gracieusement, on est logé, nourri, blanchi, ça ne veut pas dire que le travail ne doit pas être rémunéré, mais ce sont des économies qui s'articulent. Et je crois que les communs culturels permettent ça aussi, c'est-à-dire de penser de la circulation d'un certain nombre de richesses qui ne sont pas que des richesses monétaires. Alors, je termine juste là-dessus, pardon si je suis trop longue, mais je ne suis
Non,
pas en train de
j'en
dire
prie.
qu'il ne faut pas rémunérer les artistes. Voilà, le travail, bien sûr, doit absolument être rémunéré, mais par contre, je pense que ces lieux, ça permet de penser des économies qui ne se centrent pas sur la rémunération au sens de finalement, qui est plaqué sur le modèle marchand, qui serait pour tant de jours de participation en commun, on serait tant d'heures ou un taux horaire comme donné. Il y a plein de moments où les résidences, les invitations d'un collectif en direction d'un autre, le prêt de matières premières ou de machines, le fait de se former à tel ou tel usage d'outils, ça participe d'une économie beaucoup plus large et beaucoup plus résiliente d'une certaine manière. C'est plutôt ça, moi, que je regarde, et il me semble que ça doit faire partie de la réponse qu'apportent les communs culturels et l'économie solidaire, c'est-à-dire de penser des économies domestiques aussi et en plus, je dirais, d'une rémunération directe du travail. Voilà. Alors après, et j'en terminerai là, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y a une mobilisation des artistes très forte parce que les artistes sont dans de très, très nombreux cas. Et je pense beaucoup aux artistes là, plasticiens, qui sont très mobilisés dans tout être collectif. Notamment, on a vu hein, émerger Art en grève, on a vu émerger L'Abuse, par exemple, qui est un collectif d'artistes qui est hébergé au DOC, un lieu intermédiaire et indépendant situé à Paris, où les artistes commencent vraiment à se révolter parce qu'on les fait venir et on les fait travailler gratuitement et on leur paye à peine leur production, c'est-à-dire leur matière première, ce qui est parfaitement scandaleux. On leur paye très, très rarement de monstration, etc. Donc là, on a un vrai problème. Donc, il ne faut pas l'occulter. Mais je pense qu'il faut il faut marcher un peu sur les deux jambes, c'est-à-dire à la fois la mobilisation pour travail puisse être rémunérée sans que cette conversation occulte complètement les économies domestiques et de réciprocité qui se font dans ces lieux-là.
D'accord. Alors, donc, en effet, merci, on ira voir ces mouvements-là. Et puis, donc c'est très intéressant parce que là, donc, tu marques clairement tous les croisements que l'on peut faire entre les communs culturels, justement, et puis l'économie sociale et solidaire, et comment un domaine enrichit l'autre de concepts et de diversité, justement, les croisements que l'on peut faire entre ces domaines-là, et encore, il ne faut pas les séparer. Alors, si on veut s'attacher un petit peu à justement comment fonctionne l'économie sociale et solidaire pour comprendre un petit peu mieux cela, on peut dire que ce mouvement-là, puisqu'on peut le définir comme un mouvement, ça vise justement à essayer donc, d'inclure un petit peu ce que l'on a dit sur les communs culturels, dans le sens de transformer notre modèle de société, notre modèle économique actuel, par une transition des pratiques culturelles, sociales, économiques vers un modèle qui soit justement eh bien plus diversifié, plus démocratique et émancipateur, comme on le disait plus tôt. Alors, ce que l'on peut dire de l'économie sociale et solidaire, c'est que, pour essayer de le concrétiser un petit peu, on peut dire qu'un des modèles économiques qui fonctionne bien dans l'économie sociale et solidaire, c'est celui des coopératives. Alors, les coopératives, c'est un modèle de production, donc, hein, donc c'est une association. Alors là, c'est la définition de l'Alliance coopérative internationale qui donne donc une définition de la coopérative comme une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux, culturels, communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Et dans les coopératives, justement, on a les deux modèles de coopératives de production. Il existe les SCOP, les sociétés coopératives et participatives, et les SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà. Donc, il y a une petite différence entre les deux, c'est que alors, pour les SCOP, ce sont des sociétés où les salariés ont une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision et dont la gestion est démocratique, c'est-à-dire que dans les processus de délibération de décision, une personne égale une voix. Et dans les SCIC, à côté, eh bien, les mécanismes participatifs et coopératifs sont les mêmes, mais le capital peut être détenu également par les bénéficiaires de l'activité, c'est-à-dire les usagers, les clients, et par une troisième catégorie d'actionnaires également, qui regroupe les collectivités locales, les bénévoles, les financeurs, etc. Donc ça inclut plus largement des personnes en lien avec l'activité. Alors, après avoir défini un petit peu tout cela et parlé énormément des communs culturels, on peut se poser la question du lien avec les communs numériques. Rémi, quel est le lien avec les communs numériques ?
Eh ben, je pense qu'il y en a pas mal, hein, notamment en rapprochement entre ces deux domaines, c'est ce qui est promu par la coop des communs, notamment par le projet Tapas pour There are Platforms as Alternatives. Laura, je pense que tu connais un petit peu ce projet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa raison d'être et de ses objectifs ?
Alors absolument, j'ai la chance d'y participer. C'est un projet qui a été monté par des chercheurs du CEPN, donc le Centre d'économie et de gestion de Paris Nord, en réponse à un appel à projet de l'ADARES et de l'ADRES, donc les directions de la recherche et des statistiques de la santé et des solidarités. Ce qui est intéressant, c'est que dans le projet Tapas, quoi, ce qu'on a souhaité regarder, c'était les initiatives donc des plateformes alternatives qui se situent au croisement, à l'estuaire entre l'économie sociale et solidaire et les communs numériques, et qui essaient de penser leurs activités en lien avec les développements numériques sans forcément y résumer. Donc, ce qui, je crois, est intéressant, c'est qu'effectivement, la forme coopérative domine, même s'il n'y a pas que des coopératives dans les initiatives qui sont observées dans le cadre de TAPAS, mais ce qu'elles ont de commun au-delà de cet aspect formel et statutaire, c'est des emprunts au coopérativisme de plateforme, qui est l'idée d'appliquer la forme coopérative, donc avec une personne, une voix, donc cet héritage d'interprétation de la démocratie entre guillemets formelle, hein, donc avec le retour, on voit bien l'importance du vote et de la représentation de chaque individu à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, il y a un projet émancipateur fort, mais aussi des héritages de l'associationnisme, c'est-à-dire l'idée que finalement la question démocratique ne se résume pas non plus une personne, une voix, ni à la question du vote, mais encore une fois emprunte à ou hérite de formes de mobilisation qui sont anciennes. Jean-Louis Laville pointe l'héritage de l'associationnisme du premier 19e siècle, tel que le décrit Hobsbawm, c'est-à-dire des formes d'aide, d'entraide mutuelle qui pensent les solidarités entre travailleurs, mais aussi au-delà des travailleurs. Et donc, dans TAPAS, on retrouve bien ces différents éléments qui se croisent avec les communs numériques, qu'a pu vous en parler Lionel Morel. Donc, ce qu'on observe finalement, c'est comment ces initiatives essaient de combiner, ces différents éléments pour créer des dynamiques autour d'outils numériques qui ne résument pas leurs initiatives. C'est-à-dire qu'on a des initiatives qui sont dans le champ du tourisme solidaire, de la mobilité partagée avec l'idée de partager des trajets en voiture. Alors, on a Oiseaux de Passage, on a des initiatives comme Mobicop, Copcycle, qui pensent la livraison à vélo au dernier kilomètre en environnement urbain, en la pensant à la fois en opposition aux grandes plateformes dites de la food tech, mais aussi sur tout un tas d'autres métiers de logistique urbaine pour essayer de décarboner ces métiers. Donc, ce qu'on observe à cet endroit-là, c'est que finalement, la dynamique coopérative, elle se résume pas seulement à organiser le travail, c'est aussi un endroit dans lequel on essaie de retrouver du sens sur les métiers et l'activité en pensant le numérique comme un élément qui permet de s'organiser, de se positionner dans un paysage qui est largement dominé par des plateformes extrêmement prédatrices qui sont les plateformes capitalistes. Donc il y a à la fois une logique d'essayer de lutter contre ces logiques prédatrices, contre les comportements prédateurs des grandes plateformes, et en même temps, la volonté de proposer des alternatives qui sont pensées de manière ajustée au territoire sur lequel elles sont ancrées. Donc, la dimension presque même logicielle, hein, la dimension numérique au sens très technique, est d'une certaine manière relativisée et réenchâssée, réencastrée au sens de Karl Polanyi dans les liens sociaux qui sont tissés entre les travailleurs et les usagers clients finaux, les travailleurs et les partenaires, que ce soit les restaurants, que ce soit d'autres entreprises qui vont avoir recours aux services qu'ils mettent en œuvre dans leur plateforme alternative.
D'accord, merci Laura pour cette présentation très très complète. C'est très frustrant de ne pas pouvoir te poser davantage de questions sur ce projet très très intéressant, parce que l'heure tourne malheureusement, on doit clore bientôt l'émission, mais ce sera un projet à suivre et puis pour lequel on pourra rediscuter vraiment avec plaisir, parce que c'est un projet vraiment très très important, que ce soit pour les commandes, pour tous ces modèles spécifiques justement qui sont renforcés grâce à ce projet.
Les applications seront disponibles sur le site du CEPN notamment, donc voilà,
oui.
N'hésitez pas.
On mettra le lien, tout à fait, on vous donnera le lien en fin d'émission et on le mettra sur le site également de radio.picassoft.net pour vous inviter à aller regarder tout ça plus en détail. Alors un dernier point, donc en effet, puisque l'on a basculé dans le sujet des communs numériques, à un moment donné, Laura, tu as parlé de la prédation des plateformes capitalistes et de cet aspect prédateur-là. Et en effet, dans la première émission avec Lionel Morel, on avait évoqué le mouvement des enclosures, donc de réappropriation des communs, cette cassure du mouvement des communs qui avait existé dans l'histoire des communs, et le risque d'enclosure qui existe également sur les communs numériques par la réappropriation justement, ou la prédation, on peut dire, hein, de plateformes hégémoniques sur des ressources numériques, des ressources culturelles normalement libres. Alors, à propos des communs numériques, justement, on peut identifier deux risques. Eh bien, c'est l'hégémonie de ces plateformes dont tu parlais, Laura, qui concentre en effet la propriété de ressources numériques et un pouvoir économique, culturel sur ces ressources, et puis les innovations qui peuvent en émerger, et puis également, on pourrait dire, le verrouillage des contenus culturels, d'une part par les DRM, le Digital Rights Management, qui restreint l'utilisation de contenus numériques par un système d'accès conditionnel, et puis également le système de copyright lié à la propriété intellectuelle. Alors, à propos des communs culturel numérique, des communs numériques en particulier, Lionel Morel nous expliquait bien, il insiste sur le fait que bien, ces communs numériques sont, ces biens communs sont des biens non rivaux, c'est-à-dire qu'ils ne se divisent pas lorsqu'on les partage, mais au contraire, ils se multiplient à chaque partage, et en fait, toute tentative d'enclosure des communs numériques va à l'encontre de ce phénomène-là, et puis vise en tout cas l'exploitation de cette caractéristique de la multiplication de la valeur en détournant la valeur multipliée pour en monnayer l'usage. Donc, c'est quelque chose contre lequel les communeurs essaient de lutter. Et donc, heureusement, il existe beaucoup d'initiatives et de mouvements pour lutter contre ces risques d'enclosure des communs numériques. Alors le premier, ça va être celui de la culture libre. Je ne sais pas si tu souhaites nous en parler, Rémi.
Oui, alors la culture libre, bah, c'est du coup les données open data. Donc c'est un mouvement d'ouverture de données publiques qui rend donc ces données publiques librement consultables et utilisables par tout le monde. On peut citer des plateformes comme la plateforme du gouvernement data.gouv.fr, sur laquelle on va retrouver plein de données qui correspondent du coup à des données éditées par l'État, qui sont disponibles sous des licences libres, on en parlera tout à l'heure. On a aussi des plateformes collaboratives d'open data, comme Open Food Facts, qui recense des informations sur la nourriture, OpenStreetMap, qui recense des informations de cartographie, l'archive HL, qui est du coup une archive de publications scientifiques dont on avait déjà parlé, Open Law pour le droit ouvert et bien d'autres du coup qui participent à mettre à disposition énormément de données pour les citoyens sous licence libre. Ces licences du coup, on peut parler de la licence Creative Commons. Donc c'est une licence libre qui est dérivée des libertés du logiciel libre, la liberté donc d'exécuter, étudier, modifier, redistribuer. Et du coup ces licences Creative Commons vont permettre de permettre la réutilisation de toutes les œuvres tout en protégeant son droit d'auteur. On a aussi d'autres licences comme les licences copyleft dont on avait déjà parlé, mais on a déjà suffisamment parlé pour cette émission, je pense qu'on peut les sauter. Si vous voulez plus d'informations, on avait fait une émission sur les licences que vous pouvez retrouver sur radio.picassoft.net. Audrey, tu nous parles de réappropriation des infrastructures ?
Oui, rapidement. Alors, en effet, c'était une piste très intéressante donnée par Lionel Morel qui, en fait, il parlait de cette réappropriation des infrastructures comme une piste très importante pour renforcer les communs numériques parce que il nous avertissait dans la première émission que les communs numériques, en fait, ne sont pas à prendre comme des communs immatériels puisqu'ils dépendent des infrastructures, des réseaux, et que c'est à partir d'eux que nous devrions repenser le modèle des communs numériques pour les renforcer. Et pour ça, donc, Lionel Morel propose de faire atterrir les communs numériques et d'intégrer les non-humains dans la définition des communs numériques. Donc, il s'agirait, si on l'a bien compris, de porter davantage attention aux infrastructures qui supportent les services et d'organiser la décentralisation du pouvoir sur ces infrastructures. Alors, le collectif Chaton, la fédération FDN qui regroupe des fournisseurs d'accès à Internet associatifs qui se reconnaissent sur des valeurs communes de solidarité, de fonctionnement démocratique également, participe à cette réappropriation des infrastructures numériques. Alors, on parle des chatons. Bien sûr, Laura, je pense que nos auditeurs, nos auditrices qui ont écouté notre émission sur le MOOC chaton vous ont reconnu, puisque vous aviez participé à ce MOOC-là de Framasoft en abordant entre autres l'importance de la déconcentration du pouvoir sur les infrastructures numériques et l'importance de la délibération au sein d'un collectif comme celui des chatons. Alors, un dernier retour peut-être vers les communs culturels. Comment est-ce que les pratiques de communs culturels peuvent pourrait bénéficier au bon fonctionnement d'une fédération ou d'une confédération comme les chatons. Comment est-ce que les chatons pourraient s'inspirer de certaines pratiques de délibération pour ne pas être qu'un label et plutôt fonctionner vraiment comme un collectif et une fédération, puisque c'est une question qui se pose un petit peu actuellement au sein des chatons.
Il me revient donc la lourde tâche d'essayer de participer à la réponse,
Oui, parce qu'en
parce
fait,
que je pense que
on n'a pas la réponse, nous, alors.
je ne sais pas si c'est. Alors, finalement, la question, elle situerait les communs culturels dans le secteur culturel, et puis après, on aurait les communs numériques dans le secteur numérique, je crois. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, notamment parce que les chatons sont aussi beaucoup issus, en tout cas sous la forme chaton, hein, c'est-à-dire sous la forme collective, de l'expérience de Framasoft qui a eu cette incroyable intelligence de penser la question numérique d'abord comme une question d'éducation populaire, ou en tout cas comme une question d'éducation populaire. Et comme une question technique, mais sans jamais escamoter la dimension culturelle de nos usages numériques. Et il me semble que, du coup, les chatons, en tout cas, voilà, parce que ces initiatives existent avant, finalement, je pense, pour une partie d'entre elles, avant que Framasoft lance cette idée de dynamique collective, il me semble que les chatons, c'est l'expression de formes diverses, professionnelles et amateurs, d'une culture numérique qui est différente de celle qu'on nous a largement imposée à travers des usages façonnés par les outils numériques des GAFAM ou des grandes entreprises de logiciels qui finalement traitent les usagers oui, les usagers de leurs outils exclusivement comme des clients et des clients qu'il s'agit de maintenir sur un marché, donc avec toutes les questions d'obsolescence, toutes les questions. Et je rejoins, bon, c'est pas une surprise que je suis d'accord avec Lionel, mais avec cette question complètement évacuée du rapport des usagers aux infrastructures. Donc, les chatons, il me semble, sont porteurs d'une dimension culturelle en tant que telle, c'est-à-dire la volonté de questionner qu'est-ce qu'une infrastructure de stockage et de ne pas considérer le cloud seulement comme quelque chose d'un peu magique, un peu lointain, qui serait complètement dématérialisé, mais de dire non, non, en fait, vos données, elles vont être stockées là, dans mon salon, ou dans notre petite association ou dans notre. Donc là, déjà, on voit bien qu'il y a une dimension culturelle qui questionne la culture économique qu'on a vis-à-vis des outils numériques, la culture des usages numériques en tant que tel, et puis, d'une certaine manière, la culture du libre en ayant cet ancrage dans le mouvement qui a été lancé à partir de la première campagne dégooglisant Internet, et puis après avec les chatons, et maintenant ce que poursuit notamment Framasoft avec d'autres partenaires associatifs. Donc, je ne sais pas si les chatons ont à s'inspirer des communs culturels. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que c'est la dimension culturelle alternative dont ils sont porteurs du point de vue des questions numériques, du point de vue des questions environnementales et du point de vue des liens numériques que les chatons entretiennent avec les usagers. Là, il y a quelque chose de fondamental qui, à mon avis, mériterait d'être mis en avant, discuté avec les usagers et valorisé aussi dans d'autres secteurs. C'est-à-dire que peut-être la question aussi, c'est de poser la question aux communs culturels, mais qu'est-ce que les communs culturels ont à apprendre des chatons? Peut-être en premier lieu d'arrêter de s'organiser tous sur Google Drive, pour ne pas les nommer, et d'aller faire des partenariats locaux avec les chatons pour commencer à héberger nos données de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus démocratique et beaucoup moins dramatique sur le plan environnemental. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Ben, on espère que les chatons et les autres acteurs potentiellement visés vont écouter cette émission et que ça va leur donner des idées. Sinon, on n'a plus beaucoup de temps, du coup, je voulais juste mentionner un dernier point qui est le projet Résolu, qui est monté par Framasoft et les CMEA. Alors, le projet Résolu que vous pouvez retrouver sur soyez-résolu.org et qui est un projet qui vise à accompagner les organisations de l'ESS vers l'adoption de solutions alternatives libres, notamment via l'utilisation des chatons. Et du coup, c'est un ensemble de petites fiches qui expliquent quels sont les enjeux et quelles seraient certaines solutions. Pour conclure, du coup, cette longue émission, eh bien, on se rend compte que ce que l'on cherche à faire dans l'ESS, les communs numériques et les communs culturels, la communauté libriste, eh bien, tout ça, c'est de trouver des modèles d'organisation, de production, de gouvernance, en bref, des modèles de fonctionnement collectif qui permettent à la fois l'émancipation individuelle et l'évolution de notre société vers davantage de solidarité, de justice sociale et de diversité.
Merci
Audrey, je te
Rémi.
laisse faire le quiz.
Yes, on envoie le quiz. Alors donc un petit quiz, une question ouverte cette fois-ci. Dans la voie libre, on vous a parlé beaucoup d'archipélisation, de fédération, pour nommer donc un modèle d'organisation où plusieurs communautés autonomes se relient entre elles, coopèrent et peuvent mutualiser des ressources dans un bien commun, qui peut simplement être la promotion de valeurs communes. Et il y a un autre terme qui s'approche un petit peu de cela, mais qui n'est pas tout à fait le même, qui est celui de la confédération. Alors, à votre avis, qu'est-ce que la confédération par rapport à la fédération? Et puis, en question bonus, lequel de ces deux termes convient le mieux pour décrire le chaton et puis éventuellement le fait divers? Voilà, des questions ouvertes qui resteront peut-être ouvertes, mais pour réfléchir à ça, on va écouter un morceau de musique. Ça s'appelle A Long Night par One Man Symphony. C'est un des 150 titres de l'album Royalty Free Soundtrack Collection qui est disponible sur Bandcamp en licence CC BY. Ça a été déniché par Stéphane sur le subreddit Air Creative Commons. Et on écoute ça tout de suite. À tout à l'heure.
Nous voilà de retour, c'était A Long Night de One Man Symphony. Alors la réponse au quiz, eh bien le terme de confédération est un terme précis pour désigner l'union par traité où chaque partie conserve pleinement sa souveraineté. C'est un terme en opposition à celui de fédération donc, où un organe fédéral est composé et détient le pouvoir d'élaborer des lois. Wikipédia précise d'ailleurs que ce pouvoir est réparti entre un corps législatif central et les assemblées législatives des territoires des membres de la fédération. On peut dire du coup qu'en l'état, l'organisation du chaton et de la fédéraire en général épouse davantage le sens de la confédération, mais la question reste ouverte et nous n'en avons pas la réponse.
En effet, alors bon, quelques liens donc, pour vous inviter à aller creuser encore davantage toutes ces questions. Alors le premier qu'on peut vous donner, c'est celui de la coop des communs. Donc coop des communs, tout attaché, c'est oopdescommuns.org.
Ensuite, le projet Tapas, du coup, qui est disponible sur le site du CEPN, donc cepn.unif-paris13.fr/tapas.
Et puis, un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Donc, résolu, soyezrésolu.org, soyez-du-6-résolu.org. On en a fini pour aujourd'hui. On mettra tous ces liens-là sur le site de la radio. Laura, merci beaucoup pour cet échange, vraiment.
Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation.
Alors vraiment, c'était un plaisir. Et puis ben, à une prochaine fois, donc. Rémi, merci à toi aussi.
Volontiers.
Merci beaucoup,
Super.
Laura.
Bonne journée à vous et à la prochaine.
À plus.
À
Salut.
bientôt.